radio-imo.fr.
Maintenant, la chronique de l'innovation. Olivier Menard, facilitateur de créativité, expert en innovation.
Fabrice Bonifay, bonjour.
Bonjour.
Directeur développement durable et qualité du groupe Bouygues, pour échanger au micro de Radio Imo quelques mots sur l'économie circulaire dans le bâtiment, la construction et d'autres champs exploratoires, effectivement. Mais d'abord, toujours cette petite fantaisie de cette rubrique qui explore l'innovation consiste à demander à chaque invité de se présenter par « je suis »,« je ne suis pas », »,« mon avatar est ». Fabrice Bonifay, c'est à vous. Vous êtes ?
Alors oui, je suis effectivement Fabrice Bonifay. Là, il n'y a pas de problème. Je suis le directeur finalement de développement durable et QSE, donc qualité, sécurité, environnement du groupe Bouygues. Et je préside également le collège des directeurs développement durable, qui regroupe à peu près 125 entreprises, essentiellement des grosses entreprises, qui se sont fédérées pour défendre cette belle profession de directeur développement durable. Vous, et je ne suis pas...
Vous n'êtes pas...
Je ne suis pas un homme de certitude, mais plutôt un homme de conviction. Hein, vous savez qu'il y a trois mots qui mènent au dépôt de bilan, hein, c'est frontières, méfiance et certitude, mais ce qui tue le plus, c'est la certitude, donc il faut éviter d'en avoir.
Et votre avatar ?
Et mon avatar, c'est donc, c'est parce que c'est un peu la mode, mais c'est une note qui risque de durer, hein. Mon avatar, c'est un algorithme, parce que, paraît-il, ils vont sauver le monde, il y aura des algorithmes partout, et j'en accepte l'augure, parce qu'on n'a pas encore essayé cette solution, et puis on en a bien besoin.
Justement, alors partons de votre avatar. Il y a des algorithmes dans l'économie circulaire ?
On va en avoir besoin, ouais.
On aurait besoin pour être prédictif ?
Pour être prédictif et puis pour mettre plus rapidement en relation ceux qui ont des choses à donner et ceux qui ont des choses à utiliser. Donc cette mise en relation entre les donneurs et les preneurs, ça pourra passer par des algorithmes.
345 millions de tonnes de déchets produites par an en France ?
Oui.
Pourcentage attribué au bâtiment, question quiz.
C'est 70% à peu près.
Il a regardé le même site que moi. Bah. Bravo,
non,
Fabrice.
Non, c'est ça. Je connaissais la réponse.
Ouais. Hein. C'est dingue.
Ouais. Bah, enfin, bon, les déchets du bâtiment, ça pèse lourd. Hein. Ce qu'on appelle, c'est des déchets qui sont issus des matériaux pondéreux la plupart du temps. Donc pondéreux, ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Non, ça veut dire ?
Ben c'est donc pondéreux, c'est le poids, ça va, c'est le béton, l'acier, donc tout ça, le sable, tout ça, ça pèse lourd. Et c'est vrai que ça, c'est un vrai défi de faire baisser ces déchets. Alors pas simplement des déchets de chantier, mais aussi les déchets de la déconstruction, parce qu'on déconstruit aussi quand même un peu en France et en Europe. Et nos modèles constructifs et le modèle économique font qu'on réutilise peu finalement ces matériaux pour la construction neuve. Mais ça va changer.
Ça va changer parce que si on fait du benchmark dans le milieu de l'automobile, finalement l'automobile nous a montré une belle voie. Oui. Je réutilise beaucoup de pièces pour faire du neuf.
Bah, dans l'automobile, ils sont à 85% de matériaux recyclés. Alors, c'est
est-ce qu'on peut transférer ce pourcentage dans le bâtiment ?
Bah oui, peut-être même 100% dans le bâtiment comme dans l'automobile à terme. Encore faut-il que les filières existent, encore faut-il que les modèles économiques existent. La notion de déchet ultime, c'est une notion inventée par l'homme. Dans la nature, ça n'existe pas. Donc pourquoi ne pas imaginer qu'un jour, on n'ait plus rien à mettre dans des carrières, dans des centres d'enfouissement, plus exactement, en tant que déchet ultime. Oui, je pense que la notion de déchet ultime est quelque chose qui doit être éradiqué à terme.
Un exemple sur la règle, on utilise mieux, on jette moins et on réutilise dans la construction.
Oui, enfin dans la hiérarchie de l'économie circulaire, le Graal, c'est pas le recyclage, c'est le réemploi.
Réutiliser ?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait on réutilise soit dans le même usage ou dans un usage proche, et si on peut pas réutiliser parce que ce qu'on souhaite réutiliser est trop dégradé, oui, on peut transformer la matière pour la recycler et refabriquer d'autres produits. Mais autant que faire se peut, le premier niveau de l'économie circulaire, c'est le réemploi. On réutilise. Je vous donne un exemple, vous avez un plancher en chêne dans un bâtiment que vous souhaitez déconstruire parce qu'il faut absolument le déconstruire pour X raisons. Ben, ce plancher en chêne, même s'il est très dégradé, il peut être remis en état et réimplanté dans un autre bâtiment pour conserver le même usage.
Mais pour ça, il faut une filière, ce que vous disiez tout à l'heure.
Ben, il faut déjà mettre en relation, et c'est ça le plus difficile, les bâtiments qui vont être, moi j'appelle ça les bâtiments donneurs, ceux qui auront des sous-éléments potentiellement à mettre à disposition d'un d'un bâtiment neuf ou d'un bâtiment à rénover. Et cette mise en relation entre les bâtiments donneurs et les bâtiments preneurs, aujourd'hui, ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas et on a le projet chez Bouygues, et bien de créer une plateforme, voilà encore des algorithmes, de créer une plateforme entre tous les bâtiments qui sont rénovés tous les ans, il y en a des milliers, et les projets neufs qui aujourd'hui vont s'approvisionner exclusivement ou quasi exclusivement sur la base de matériaux neufs, c'est-à-dire directement achetés à des fournisseurs, ben on pourrait imaginer demain, et ce demain existe déjà dans certains pays, eh bien qu'il y ait une double base de données qui apparaisse progressivement, donc toujours pareil, les matériaux neufs issus des usines de transformation, mais aussi le réemploi, c'est-à-dire issus de la déconstruction de bâtiments, après remise en état, bien entendu, parce que c'est rare que des éléments de bâtiments qui ont été utilisés pendant plusieurs dizaines d'années soient directement transposables dans un bâtiment neuf sans transformation. Ça peut être le cas, hein, mais la plupart du temps, ça nécessite une mise aux normes ou une remise en état avant réimplantation.
Ça veut dire qu'on va déconstruire autrement ?
Ça veut dire qu'il va falloir qu'on anticipe.
On va peut-être pas envoyer la masse.
Ben voilà, vous avez, c'est le nerf de la guerre, c'est de pouvoir anticiper le plus possible. C'est-à-dire que dès que le bâtiment qui va être rénové ou déconstruit, il faut pouvoir le sourcer, avoir l'information le plus en amont possible pour faire un diagnostic, un véritable diagnostic. C'est dans le bâtiment, c'est pas encore comme dans le cochon, tout n'est pas complètement bon encore. Donc, parce que c'est une question de valorisation matière, à terme peut-être, mais au début non. Et donc de le sourcer le plus en amont possible, les bâtiments à déconstruire, et les déconstruire d'une façon propre, pour que on casse pas tout, voilà, que ça soit curé d'une façon optimum, qu'on puisse avoir le temps de remettre en état, qu'on puisse numériser tout ça, et mettre à disposition des maîtrises d'ouvrage qui souhaitent construire un bâtiment neuf ou rénover un bâtiment, eh bien ces éléments pour qu'ils puissent avoir la visibilité de ces matières premières mises à disposition. Eh bien ça, on aura besoin du numérique pour le faire. Et c'est vrai que dans le futur, cette fois-ci, l'éco-conception et la maquette numérique va nous permettre d'avoir une meilleure information de ce qu'on met dans un bâtiment. Et donc on aura ça en mémoire numérique, et ça sera plus facile pour ceux qui vont construire des bâtiments dans les années qui viennent, et bien de savoir qu'est-ce qu'on peut récupérer, quelles sont les caractéristiques exactement de ce qu'on peut récupérer. Et le numérique va beaucoup faciliter la vie dans le futur sur ce sujet.
Ça veut dire qu'on fait un diagnostic du bâtiment, oui. On va déconstruire, donc on passe une sorte d'IRM. D'accord.
Ouais, complètement.
C'est ça. D'accord. Alors, ça va nous amener à ce que le bâtiment devient une banque intelligente de matériaux. Ouais. On va pouvoir se fournir. On va pouvoir se dire tiens, dans tel chantier où on démolit quelque chose, je vais pouvoir récupérer ça. Ou non, ça se fait pas si rapidement, ça va être plus compliqué.
Bon, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est compliqué parce que il y a d'abord le modèle économique de la construction n'est pas du tout bâti autour de l'économie circulaire. Ça va se mettre en place. Donc il y a des pionniers dans certains pays, notamment en Belgique, aux Pays-Bas, et nous, la France, on s'y met aussi petit à petit. Mais ce que vous venez de dire là, c'est que on peut considérer effectivement que demain, les bâtiments vont devenir les banques de matériaux pour les bâtiments du futur.
Oui.
Ça veut dire en fait qu'on va avoir des bâtiments sur pied qui vont avoir des caractéristiques fonctionnelles liées à leur usage, mais aussi des caractéristiques liées à leur modèle constructif et aux éléments constitutifs. Bah, pourquoi ne pas imaginer que ces pierres, cet acier, ce bois qui va être utilisé pour construire le bâtiment ne soit pas conçu pour que ces matières premières puissent être réutilisées quasi à l'infini pour reconstruire d'autres bâtiments dans le futur. Je signale qu'à l'heure, c'est pas dire qu'on va revenir au Moyen-Âge, mais au Moyen-Âge, les pierres qu'on a construites, qu'on a utilisées pour construire les églises ou les châteaux forts, servaient d'une façon séquentielle pour la fabrication de dispensaires, d'hôpitaux, d'églises, etc. Alors, bien sûr, maintenant, les normes dans le bâtiment se sont beaucoup sophistiquées, ça sera certainement plus complexe parce que les éléments sont plus nombreux, mais je pense que cette notion de Lego, de briques élémentaires, c'est aussi beaucoup de bon sens, parce que de toute façon, on ne pourra pas utiliser à l'infini des matières premières dont les ressources sont finies. Donc il va falloir qu'on invente quelque chose d'autre, un nouveau modèle, et ce modèle des éléments finis qu'on peut réutiliser, ça c'est des choses qui sont à mon avis de l'ordre du possible.
Le temps court, il nous reste un petit peu plus d'une minute, donc j'ai vraiment envie de vous poser une question parce que c'est pas la première fois que je vous écoute. Hein. Je vous ai déjà écouté à d'autres, dans d'autres occasions et à d'autres occasions. Quelle forme d'humilité doit-on avoir quand on est directeur du développement durable, tout en sachant que ce qui est progrès aujourd'hui pourrait être condamné ou porteur de reproches demain?
Ben, l'humilité, c'est déjà de travailler pour le présent.
Parce que faire vos pas de progrès pour le présent.
Pour le présent, parce que d'avoir l'orgueil ou la prétention de dire ce qui va se passer demain. D'abord, on n'en sait rien. Et puis, je pense qu'on n'est pas payé nous pour faire trop de prospectives sur des sujets où il y a tellement d'incertitudes. En revanche, améliorer ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les moyens d'aujourd'hui, avec les connaissances d'aujourd'hui, ce serait, à mon avis, irresponsable de ne pas le faire. Donc aujourd'hui, on sait des choses, il faut le faire maintenant.
Faire mieux maintenant. Merci beaucoup, Fabrice Bonifay, d'être venu au micro de Radio Imo. Je rappelle, vous êtes le directeur du développement durable et qualité du groupe Bouygues.
Radio-imo.fr.
Maintenant, la chronique de l'innovation. Olivier Menard, facilitateur de créativité, expert en innovation.